Où sont cachés les diamants?
J'ai pas...
Ne t'énerve pas, non, Ken, prends ton temps. Je vais rester ici à manger mes frites jusqu'à ce que tu répondes.
CO2, mon amour.
Et qu'est-ce que les Anglais mangent d'habitude avec les frites?
Mais attendons voir une minute. Le poisson.
Oups. Oh, le petit poisson.
Attention, on descend.
Avec Denis Chessou.
Délicieux.
Tu veux que je mange le verre?
Allons-y.
Sur France Inter.
Oui. Faut mieux éviter les verres. Ils sont pas encore mûrs.
Oui, mais c'est plein de protéines, les verres. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, avec aujourd'hui Vincent Godard et Théo Lacombrade à la technique. Et assisté de Camille Blanès, notre stagiaire Alice Michaud. C'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Je vais vous emmener à Arc-et-Senans, très très beau lieu. On va rencontrer Luc Squitten, qui est un visionnaire, qui est un architecte, dessinateur assez génial. Il y a Frédéric Denry dans ce studio, il y a aussi Sandra Colombo avec sa chronique et encore plein de petites choses, mais donc il va y avoir un vrai bol d'air du Jura. Alors on commence d'abord par une actualité. En Ile-de-France, vous savez qu'il y a une montagne d'or ici, comme en Guyane, mais là elle s'appelle Marne-la-Vallée. Vous en voulez pour votre argent, de vos jolis projets? Eh bien vous en aurez. Combien? 2 milliards. Alors pas de problème, topez là. 2 milliards pour un projet géant de reconversion agricole du bassin parisien bio?
Non, Denis, mauvaise pioche à mon avis.
Alors, mauvaise pioche, mais pas mauvaise pelleteuse. Et oui, alors où est-ce que l'on va? Eh bien, avec ces 2 milliards, eh bien, cet investissement fut annoncé fin février par le PDG de la Walt Disney Company pour une extension du parc d'attractions à Marne-la-Vallée. D'ailleurs, très, très avalé, c'est le cas. Alors, vous me direz, disparition des insectes, des oiseaux, des terres agricoles ou pas? Eh bien, une bonne partie de nos concitoyens à l'abri de leurs écrans s'en fichent quand même un peu. Ils ont les parcs. On est sauvés. Des safaris entiers d'animaux à la demande, en cage, en delphinarium, en zoo, en enclos. Des animaux qui font les 3-8 par tous les temps sans jamais déposer de préavis de grève. Ouah, ce n'est pas ce qui manque. Des oiseaux en volière et jointés ou bien au taquet qui volent quand on les siffle dans des châteaux du Moyen-Âge comme Totor le faucon pour donner le grand frisson à la dame. Et des dauphins joyeux mais condamnés de la mer qui sautent dans des cerceaux sous les applaudissements d'un public conquis. Alors des aires de jeu comme ça, bah, on en a quand même pratiquement tous les jours. Pas de problème donc pour la nature, on est servi et on complète ce qui manque ou ce qui n'existe plus avec nos écrans. Où est donc le problème? Alors j'y reviens. À Marne-la-Vallée, on ne manquera ni de souris ni de canards sans culotte puisque tonton Disney, Mickey, Donald, Minnie, ce petit monde dingo, va étendre toujours plus loin son grand manteau de dollars magiques. Et nous n'allons pas nous plaindre hein, puisqu'on s'y précipite en famille, par autobus entier, pour payer cher des files d'attente de rêves à mi-donner. Alors ces 3 nouvelles zones seront dédiées à Marvel, à la Reine des Neiges, déjà rebaptisée à la montagne Reine des Canons à Neige, voilà, et le pacifiste aussi Star Wars. Éloge et soutien sans faille, comme pour Europa City, de la présidence de la République. Bon, faut dire que la proximité entre l'État et Disney date de 1987. Hein, on était dans un contexte économique de crise et de chômage. Jacques Chirac avait déroulé le tapis bleu, blanc, rouge à la World Company à travers un établissement public d'aménagement qui gère donc toujours le foncier. Et le foncier, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Alors on comprend l'enthousiasme, mais où s'étendra ce joli parc? Eh ben, c'est comme d'hab. Le béton écrabouillera quelques centaines d'hectares d'excellentes terres agricoles avec une pression foncière encore plus forte. Aujourd'hui, on a 15 exploitants de beaux précaires et ces reporters, nos amis de reporters donc, qui ont ressorti cette information et reporters donc, qui enquêtent, bah, c'est quand même entendu dire
que le projet n'étant qu'au stade du creative process, eh bien vous n'aurez pas d'information.
La rocade Euro Disney est un lieu très secret, mais puisqu'on vous dit que ça créera des emplois de gentils lutins et d'intermittents de loisirs, hein? Et puis pour la nourriture, pas d'inquiétude, le McDo il va suivre, ben oui, faites confiance. Ah, un Sunday à la fraise sur un parking bondé, surchauffé, c'est génial. Est-ce déjà l'aboutissement de la transition vers un monde durable? En tout cas, dans développement durable. Ce que retiennent toujours nos décideurs, c'est le mot développement. Foi de Oncle Picsou qui vous le dit. Juste un petit mot, Frédéric Denry, parce que ce sujet-là, donc. Alors là, je rappelle, hein, nos amis de reporters hein, qui ont repris cette information.
Faut les lire, oui.
Et donc, effectivement, une information sur Disney, sur Euro Disney.
Sur Disney, c'est qu'on va peut-être bétonner, on va peut-être perdre des terres agricoles, alors même que la santé financière de ce gigantesque parc n'est pas du tout assurée. Marianne avait fait une enquête là-dessus pour bien montrer qu'ils étaient quasiment en faillite et soutenus à bout de bras par la maison mère. Donc, on pourrait se retrouver dans 20 ans avec une gigantesque friche de plus. Aux frais du contribuable, bien sûr, Denis.
Bah d'accord, puis on mettra peut-être du blé, des terres agricoles, du bio, là, cette fois-ci.
Oui, bah, oui, peut-être, on peut toujours y croire, en effet.
Allez, une actualité aussi tout à fait intéressante, on va rejoindre par téléphone Arnaud Gosseman. Bonjour Arnaud Gosseman.
Bonjour Denis, chez vous.
Alors Arnaud, vous êtes avocat en droit de l'environnement, vous intervenez dans cette émission, on vous connaît bien, et notre actualité, c'est qu'en fait, le Premier ministre, Édouard Philippe, et la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, ont présenté, donc là aussi, tout à fait récemment, à la presse, une feuille de route de l'économie circulaire. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un énième plan pour l'écologie?
Alors malheureusement, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup de plans, de stratégies, de feuilles de route, ce sont des annonces. Donc là, on parle bien d'annonces et on ne sait pas encore si ça se traduira par les actes. En toute hypothèse, là, c'était un document important. Alors pas assez important pour que Nicolas Hulot soit là le jour de la présentation, hein. C'était bien le Premier ministre qui présentait cette feuille de route sur l'économie circulaire qui comporte 50 mesures dans tous les domaines, gaspillage alimentaire, véhicules hors d'usage, etc., etc., et avec plusieurs objectifs à la clé. Alors, je vous cache pas que ces objectifs, on les répète beaucoup depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, mais en tout cas, ils sont réaffirmés, on s'en plaindra pas. Alors notamment, il faut envoyer un peu moins de déchets dans les décharges, de réduire de 50% hein, le taux de déchets qui vont en décharge d'ici à 2010. Pardon. Et puis, il y a un objectif phare.
Alors ça, c'est 100%, hein, 100% de le plastique recyclé. C'est un des rares objectifs écolo du programme d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. C'est réaliste ou pas, 100% de plastique recyclé?
Alors en tout cas, ça fait l'objet d'une polémique, c'est clairement au cœur de la feuille de route de l'économie circulaire, et c'était l'un des rares objectifs chiffrés en matière d'écologie d'Emmanuel Macron candidat. Le dossier de presse du gouvernement rappelle que 335 000 tonnes, c'est la masse de bouteilles en plastique et de canettes qui est consommée par les Français à leur domicile chaque année. Donc il faut lutter contre le plastique, vous avez tous vu ces images abominables d'oiseaux qui s'empalent sur des pailles en plastique ou qui absorbent des sacs en plastique également. Donc pour lutter contre ça, la feuille de route énonce un certain nombre de mesures, notamment la consigne. On va peut-être réinstaurer la consigne que connaissaient bien nos grands-parents, mais cette fois-ci, y compris pour les bouteilles en plastique, les canettes métalliques et nos piles. On serait donc intéressé à ramener tout ça sur un point de vente. Et puis également, des dispositifs de reprise toujours financiers. Manifestement, le consommateur, si on lui donne pas une petite obole, eh ben, il ne le ramène
pas
à ses déchets.
Oui.
Notamment pour les téléphones portables, les équipements informatiques ou les télévisions. On serait payé à les ramener.
Alors donc, le gouvernement compte beaucoup hein, sur les consommateurs pour réduire nos déchets. Donc là, on a bien compris qu'il va y avoir des incitations. Alors aussi, donc, il souhaite instaurer des éco-contributions sur les nouveaux produits, c'est-à-dire jouets, articles de sport, de loisirs, de bricolage, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ce sont des nouvelles taxes merveilleuses qui sont à prévoir ou...
Alors vous avez raison, il compte beaucoup sur le consommateur et notamment il veut améliorer la formation du consommateur. Aujourd'hui, sur certains produits, vous savez, ces deux petites flèches vertes et blanches qui s'entrelacent. Beaucoup de consommateurs pensent que ça signifie que le produit qu'ils ont entre les mains sera recyclé.
Pas du tout.
Ça veut dire que le fabricant a payé une contribution à un éco-organisme qui, on l'espère, recyclera ce produit s'il est recyclable. Donc le gouvernement veut mettre le ménage là-dedans et imposer un logo, le Triman, c'est une sorte de petit bonhomme vu de profil qui semble jeter un déchet, mais de sa main, il y a trois flèches qui s'échappent vers le haut et vers le bas. C'est assez moche. Aujourd'hui, les fabricants doivent juste le mettre sur leur site internet. Il faudra le mettre maintenant sur les produits qui sont recyclables. Donc là, on va améliorer l'information du consommateur. Et puis effectivement, on va lui faire payer une contribution pour de nouveaux articles. Aujourd'hui, lorsque vous achetez par exemple un réfrigérateur, vous allez payer une petite pastille, quelques euros, quelques centimes, qui garantiront que lorsque ce frigo deviendra un déchet, il sera collecté et traité dans les bonnes filières. Et bien cette éco-contribution, demain, on va peut-être l'asseoir sur des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage, de jardin. Donc il y aura de nouvelles éco-contributions. Et effectivement, le gouvernement communique en disant « Attention, ce n'est pas une taxe, c'est juste vous payez par avance un service. »
Arnaud Gosseman, j'ai passé sur la polémique qu'il y a eu en ce qui concerne donc les cigarettes, de savoir ce qu'on allait faire payer avec le traitement des mégots. Mais j'aimerais qu'on arrive quand même sur l'autre sujet de polémique, c'est-à-dire les déchets du bâtiment. Parce qu'on l'oublie souvent, mais les déchets du bâtiment, c'est notre première source de déchets. Et selon la feuille de route, avec 247 millions de tonnes de déchets par an, moi je rappelle que nos déchets ménagers, on est autour de 30 millions, ça va être 28 à 32 millions de déchets ménagers, ça c'est les nôtres. de tous les Français. Là, c'est 247 millions de tonnes de déchets par an. Le secteur de la construction est quand même responsable de 70% des déchets en France. On l'a tous rencontré lors de nos balades en forêt, ces charmants sacs blancs contenant des gravats de chantier. Bon, qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Parce que là, les professionnels aussi ont l'air un petit peu inquiets.
Vous avez raison de rappeler qu'on en parle très peu, mais les déchets du bâtiment, et plus largement les déchets du bâtiment et des travaux publics, c'est la première source, c'est le premier gisement de déchets en France, et on en parle assez peu. Aujourd'hui, il existe déjà des dispositifs. Lorsque l'artisan vient casser votre cuisine, il peut ramener, moyennant vous faire payer un petit peu, tous ces déchets dans une déchetterie professionnelle. Il y a aussi des dispositifs sur les parkings de certains grands distributeurs de reprise de vos matériaux de construction une fois qu'ils ont été usagés. Mais c'est vrai que tout ça semble insuffisant pour le gouvernement, et le gouvernement souhaiterait mettre à contribution, alors on ne sait pas encore exactement très bien qui, mais des professionnels, probablement des distributeurs, je n'ai pas donné de nom, mais des grands distributeurs qui font aussi du bricolage, peut-être demain seraient amenés à collecter auprès des consommateurs une éco-contribution pour financer par avance la gestion de ces déchets du bâtiment. Mais c'est vrai qu'il y a une polémique, parce que d'abord vous avez un gisement, et vous avez certains professionnels qui souhaitent capter ce gisement, et puis d'autres qui aujourd'hui proposent déjà des formules type déchetterie professionnelle. Certes, elle marche, mais le gouvernement estime qu'il faut que ça soit gratuit pour être certain que les artisans aillent mettre dans ces déchetteries leurs gravats et des blés de chantier. Donc aujourd'hui, il y a une vaste polémique et probablement des décisions sont attendues pour la fin de l'année pour enfin traiter cet énorme gisement de déchets.
Eh bien, écoutez, merci à vous Arnaud Gosselin, donc pour ce décryptage d'une certaine partie donc de cette feuille de route de l'économie circulaire. Vous restez avec nous, on va vous parler donc d'Arc-et-Senans avec Lux Cuitaine, et puis il y a Frédéric Danhé, et puis il y a Sandra Colombo. Le tout sur France Inter, c'est au de mon amour.
Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau.
C'est au de mon amour. Avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah non, bon, c'est dit qu'un peu de culture, ça fait jamais de mal non plus dans cette émission. Et revoir le loup et l'agneau, c'est extrêmement important, hein, Frédéric, bien sûr.
Je suis pas d'accord, mais c'était pas Louis de Funès, c'était Xavier Pestugia.
Oui, qui imitait de Funès, absolument. Alors, on va pas parler du loup, mais d'une autre bestiole, on va dire. Non, on va dire, ça va être des algues, ce sont les sargasses.
C'est en combinaison, masque à gaz à portée de main, que les équipes ramassent les algues sargasses sur les plages de Martinique aujourd'hui. des algues qui dégagent un gaz toxique, l'hydrogène sulfuré. Le travail est effectué sous la surveillance de capteurs, car en cas de dépassement des seuils, il faut évacuer. Depuis quelques mois, les sargasses ont envahi les côtes guadeloupéennes et martiniquaises. Les habitants doivent cohabiter avec cet intrus particulièrement incommodant.
Ça devient insupportable. On a des nausées, des brûlures oculaires, des douleurs dans les poumons, ça commence à brûler.
La saison touristique est menacée. Sur l'île de la Désirade, cette restauratrice a dû fermer pour réparer les dégâts dus aux émanations de gaz.
Le gaz, ça noircit tout le PVC. L'inox aussi, ça devient tout noir. Donc depuis lundi, on nettoie.
Alors ça ne fait pas du tout rire les oiseaux, ça ne fait pas chanter les abeilles. Nos amis des Caraïbes, évidemment, s'en passeraient bien. Ce n'est pas la première fois, évidemment. Que peut-on dire sur ces sargasses? Alors toujours après, c'est il nous faut de l'aide pour pouvoir sortir ces sargasses, etc. Mais enfin, on a un peu l'impression que c'est un puits sans fin. Donc repartons sur les causes, Frédéric Danvé.
Les causes, alors elles sont difficiles à établir, mais on s'achemine de plus en plus vers une augmentation de la population de sargasses au débouché du fleuve Amazon à cause de l'érosion des sols qui entraîne non seulement les sols, mais également tous les engrais qui y sont. Donc c'est le phénomène d'eutrophisation classique. Autrement dit, il y a plus à manger pour les algues, elles en profitent et elles sont entraînées vers la mer des Caraïbes par un courant qui nous vient du golfe de Guinée.
Mais si elles ont plus à manger, c'est bien parce qu'il y a une déforestation, qu'on va mettre à la place donc des différentes sortes de cultures que l'on va arroser copieusement.
Et qu'on fait du soja, etc., voilà. etc., qu'on arrose d'engrais, qu'on arrose de pesticides, et nous voilà donc avec une terre qui, donc, érosion des sols. Et voilà, le phénomène s'amplifie avec les engrais qu'on trouve dans l'eau. Donc les sargasses arrivent. Alors il faut savoir que c'est par plaque. Ça peut faire jusqu'à 1 mètre d'épaisseur sur une dizaine de kilomètres de long. Et le jeu des courants fait qu'elles arrivent en droite ligne en Martinique, notamment sur les plages du Robert, ainsi qu'à la Désirade et au Sainte. À la Désirade, l'épaisseur est tellement importante que les bateaux n'ont plus accès à l'île, si vous voulez. Donc l'île est enfermée derrière. Est enfermée. Non, je vois Sandra Colombo qui brûle. Regardez, j'ai écarquillé, l'île est enfermée derrière les sargasses.
On peut quasiment marcher dessus, quoi.
On peut quasiment marcher dessus. Quand les sargasses arrivent sur la plage, bien évidemment, elles pourrissent. Et puisque c'est un tas très compact, au milieu de ce tas de sargasses, il n'y a plus d'oxygène et donc putréfaction, H2S, NH3, nitrate et hydrogène
sulfuré. Tous les risques qui vont avec aussi pour la
santé. Les risques pour la santé, y compris pour les appareils électriques.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on dit? On dit à nos amis brésiliens, arrêtez de déforester, comme d'habitude.
Parce que c'est un peu la proposition qu'a fait le sénateur de Martinique, Dominique Théophile, proposition au Sénat, donc le 13 avril 2018, dans un langage assez cru pour une publication sénatoriale. Il dit, attendez, c'est nous qui légalement, nous communes, sommes obligés de réagir, de faire nous-mêmes le nettoyage des plages, alors qu'on sait très très bien que de toute façon les algues viennent d'ailleurs, au Brésil, et que la meilleure solution c'est d'aller les chercher en mer. Donc il demande l'aide de l'État, il demande à ce que l'État prenne en charge ceci et qu'il y ait une discussion internationale, une réunion internationale pour définir les responsabilités et puis faire payer aux Brésiliens, selon le principe du pollueur-payeur, le nettoyage des plages et le ramassage en mer.
Et si on va chez nous, toujours bord de plage, mais cette fois-ci à Cannes, on est dans l'actualité.
C'est pas la même chose, Denis, pareil, mais c'est un peu le même principe. Vous savez, la mer, la houle, la marée ramène ce qu'on appelle des laisses de mer sur la plage. Sur la plage, on a du polystyrène, du plastique, mais aussi des algues. En Méditerranée, on a simplement la posidonie, qui n'est pas une algue, comme vous le savez, qui est une plante à fleurs qui régulièrement perd ses feuilles en automne, et puis ses feuilles viennent s'accumuler pour former une matte, un vrai matelas. Jusqu'à présent à Cannes, avant que les starlettes et les stars et les plateaux de télé n'arrivent, on retirait du sable ces mattes de posidonie, et puis on oubliait de les remettre. Résultant, on s'apercevait que dès que les tempêtes arrivaient au mois d'octobre,
ça tapait. Il n'y avait pas le matelas du sable.
Il n'y avait pas ce matelas pour protéger, pour amortir l'eau. Et donc la mairie de Cannes, pour une fois intelligente, a décidé début avril de retirer ce matelas, de le faire sécher, et ensuite de le remettre à l'automne. Ça protège les plages de la houle, ça les protège de l'érosion, ça protège cette petite vie qu'il y a dans le sol qui fait que les plages maintiennent leur cohésion de grain à grain.
Alors ne cherchez pas de relation entre les Caraïbes, Cannes et maintenant donc on va dire le massif du Jura et le départ.
Il n'y a aucun rapport.
Et le rapport
si ce n'est le sel.
Le sel, nous y sommes. Et oui, on va partir dans le Doubs. Allez, Arc-et-Senans, vous allez comprendre.
La balade de Denis Chessou.
Ah, est-ce qu'on pourrait voir Monsieur Ledoux? Je ne sais pas si c'est possible, Hubertassi, aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, Monsieur Ledoux, qui, quand même, nous a fabriqué ce lieu incroyable, là?
Oh, là, mais là, en tout cas. Il habite ces lieux, c'est certain. On le fait revivre l'été, d'ailleurs, à travers un spectacle avec des projections lumineuses. Et la voix, c'est celle de Daniel Mesguich qui cite Ledoux.
Alors, on le cite parce que c'est quand même le créateur de ce qui aurait dû être peut-être, d'ailleurs, la saline de Chaux. C'est-à-dire que c'était, en fait, non pas ce demi-cercle extraordinaire, mais ça aurait dû être un rond complet.
En fait, Claude-Nicolas Ledoux a répandu à un cahier des charges qui était de faire une manufacture de sel, mais il a transformé en grande œuvre. Et c'est vrai que c'est un des rares architectes, peut-être le seul, à avoir complètement mythifié son œuvre, puisque presque 20 ans après, il a imaginé effectivement la ville idéale de Chaux, une ville à la campagne, une ville où les hommes seraient protégés des méfaits de l'urbanisation, déjà.
Passe-moi le sel. Eh bien non, je vais faire bien mieux, je vais t'offrir la saline, et royale en plus, classieuse et classée à l'UNESCO. Un homme, Claude-Nicolas Ledoux, qui descend tout droit des Lumières, visionnaire, nombre d'or, fraternité et son usine de sel intégrée, idéal de progrès et cité idéale, qu'il disait. Alors, dans cette demi-roue de pierre calcaire, donc on est dans le département du Doubs, on quitte la plaine, on a le Jura qui est juste sous nos yeux, donc nous sommes en Franche-Comté. On va remercier la mer d'avoir déposé son sac de sel comme des larmes évaporées il y a plus de 250 millions d'années. Et là, c'est pas de moi, mais c'est joli. Si l'univers était plein de sel, il serait universel. C'est beau, c'est pas mal. C'est un auteur belge qui avait sorti ça, je trouve ça très très beau. Et là, un autre homme, donc Luc Squitten, belge, architecte, dessinateur, auteur, visionnaire aussi. Son grand œuvre à lui, son grand œuvre, c'est d'être en osmose avec le végétal. Alors cet homme-là, donc, il construit depuis des dizaines d'années des jardins verticaux, des cités futuristes. Quel est le rapport? Eh bien, cet homme-là, je l'ai rencontré donc il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il accrochait son exposition Les Panoramas de 2100, donc le futur est déjà là, il se construit avec la nature, avec Luc Squitten. Et là, on va quand même poursuivre le voyage avec Hubertassi. Hubertassi, c'est donc notre premier guide, puisque c'est le directeur de ces salines d'Arc et Senans, donc dans le Doubs. Et là, au-dessus de nous, pas très loin, il y a donc Salins-les-Bains, là c'est le Jura. Et comment arriver ce sel, donc Hubertassi, comment arriver cette saumure jusqu'à chez vous, Arc et Senans?
Le saumoduc, c'est-à-dire le pipeline qui a amené l'eau salée, la saumure, fait 21 km. Mais en fait, par la route, il y a 13 km. Donc 21 km pour suivre les courbes de niveau, pour avoir un peu de pente. Mais il y a très peu de pente, en fait. Il n'y a que 140 mètres de dénivelé.
Et donc, ça arrivait sous quelle forme, ici?
Alors, ça arrivait sous une forme de saumure, d'eau salée, avec très peu de teneur en sel, évidemment, pour que ça circule dans les tuyaux, qui étaient des tuyaux de bois emmanchés les uns dans les autres. Ouais. Il fallait concentrer le sel, ici, avant de le faire évaporer. Donc il y avait un instrument qu'on appelait le graduateur, qui faisait 500 mètres de long, qui permettait de concentrer le sel pour arriver de 3 grammes à l'arrivée de l'eau jusqu'à 300 grammes par litre d'eau de sel. Donc il concentrait énormément le sel.
Et comme Salins est quand même une vallée extrêmement encaissée, donc dans cette écluse, c'est un endroit qui est assez superbe, qui mène sur les premiers hauts plateaux donc du Jura, il n'y avait pas forcément assez de place après pour travailler le sel.
Il y avait surtout plus de bois, parce qu'on arrive sur des problématiques actuelles, puisque
énergétique,
exploité depuis le Moyen-Âge de façon quasi industrielle, et ils avaient totalement arasé les collines environnantes. Donc le bois venait de la forêt de Chaux,
qui est juste derrière, là.
Juste derrière la saline.
Ouais.
Et Claude-Nicolas Ledoux, qui était inspecteur général des salines, s'est dit, ramenons plutôt l'exploitation près du bois et faisant venir l'eau par un saumoduc.
Plutôt que de convoyer la forêt
jusqu'à Salins-les-Bains. Il y a la nature ici. Ledoux est tombé amoureux du Val d'Amour et il y avait des éléments qui lui semblaient indispensables, en particulier ce vent qu'il y a aujourd'hui, qui permettait de sécher effectivement le sel et de concentrer encore plus la teneur en sel des petites eaux qui arrivaient de Salins. Donc ce qui est étonnant maintenant, c'est qu'effectivement il n'y a plus aucune trace de ce passé industriel, et on n'imagine pas que c'était une manufacture.
Et qui était une manufacture en fait complètement intégrée, quoi. Alors on avait un peu les yeux les uns sur les autres, quand on était ouvrier ici, c'est un peu ça. On avait aussi des avantages sociaux, quoi. Donc.
Oui, c'était déjà, ça a inspiré les phalanstères, et ça a inspiré, alors on ne peut pas dire que la politique qu'il y avait dans la saline était totalement sociale, mais il y avait un embryon de, par exemple on a retrouvé des registres où les ouvriers blessés étaient indemnisés. Voilà. Pas grand-chose, faut dire, mais quand même. Et puis, les gens étaient logés sur place. Ils avaient le jardin vivrier derrière leur logement.
Ils sont juste là, on voit. Là.
Donc, c'est vrai que c'était, en tout cas, à la fois une nécessité pour la production. Hein, c'était déjà une réflexion sur la rationalité de la production. Mais c'était aussi un souci du bien-être des employés. Et c'est vrai que Ledoux l'a développé beaucoup après, par contre, parce qu'il a imaginé des maisons pour les pauvres. À son époque, c'était révolutionnaire, hein, ça c'est le cas de le dire.
Alors Hubert Tassy, ce lieu aujourd'hui n'est pas que dédié, loin de là, donc à l'écologie, mais quand même, vous avez souhaité aussi qu'il y ait une place pour l'environnement et l'écologie et la pédagogie.
Oui, alors on a ces jardins ouvriers qui maintenant sont le lieu d'un festival des jardins. Et ce festival des jardins est particulier, parce qu'il y en a beaucoup en France, des festivals des jardins, de très connus. Mais celui-là, donc sur les 10 parcelles qui entourent la Saline, chaque année, il y a un concours qui est lancé auprès des élèves des écoles nationales du paysage. Et les jardins sont réalisés par les étudiants des écoles spécialisées en tout ce qui est métier de la nature. D'accord. Donc ils viennent en résidence ici pendant une semaine. Et à tour de rôle, ils réalisent les jardins qui ont été imaginés par leurs aînés, par les étudiants des écoles nationales. Et ainsi, 600 jeunes passent à la Saline Royale et où on leur inculque les bonnes pratiques en matière de création de jardins, de plantation, c'est-à-dire zéro produit phytosanitaire, travailler sans béton, voilà. Donc toutes les techniques. Et alors cette année, on a la chance d'avoir un grand spécialiste avec nous qui a encadré ces jeunes et qui encadre ces jeunes, c'est Luc Skuyten.
Oui. Voilà, un Belge génial.
Un Belge génial, comme il se définit lui-même, un architecte utopiste qui combat depuis 40 ans pour la défense de la nature et d'un habitat durable.
Alors on va le rejoindre, Luc. Où êtes-vous? Ah, il est là-bas. Allez, on y va. Il est là. Il est là, ça y est, j'arrive. Bonjour Luc Skuyten.
Bonjour Denis.
Je suis ravi qu'on se retrouve ici dans ce lieu incroyable. On a donc les montagnes du Jura. L'avenir est un pays quand même qui vous intéresse. Vous avez eu cette sensibilité, vous, à l'écologie. Et vous avez été un peu visionnaire aussi, déjà aussi dans les années 70. Quoi.
Cette fascination pour la nature, c'est vrai, m'a toujours habité.
Venez au soleil, on sera encore mieux.
Voilà. Ça m'a semblé quelque chose d'évident. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'architecte, j'ai commencé à dessiner des bâtiments qui avaient des quelques relents d'art nouveau. Et ça m'a énervé dans tout. Je me suis dit, quelque chose qui va pas du tout là-dedans, j'ai pris une mauvaise piste. Et puis j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait à cette époque? Ben, on prenait un arbre, on le coupait, on le réduisait en parallélépipède rectangle, on y injectait plein de produits pour être sûr qu'il soit bien, bien, bien mort, et puis on redessine la forme végétale qu'il avait auparavant. On dit, mais quel gaspillage, quelle prétention aussi de pouvoir croire qu'on pouvait faire mieux, alors que quand on laisse comme il a poussé, il est tellement beau. Alors j'ai commencé à imaginer comment je peux travailler avec un arbre vivant, et j'ai commencé à dessiner plein de choses sans du tout savoir que je pourrais un jour commencer à travailler avec ça. Simplement, le dessiner était une manière pour moi de voir vers quoi je tends, savoir vers quoi on va. Ça, c'est quand même quelque chose de fort important.
Alors, Luc Skuyten, lorsque l'on parle de mondialisation, comment vous réagissez?
La mondialisation, pour moi, c'est une misère terrible. C'est une réduction à un même commun dénominateur minimaliste qui nous ramène à une uniformité et une banalisation épouvantable. En architecture, c'est un désastre. On nous propose des petites boîtes, les mêmes, insipides, inodores, incolores. L'uniformité, c'est la perte de la biodiversité dans l'architecture, qui est aussi grave pour moi que celle dans la nature.
Ce qui est formidable, c'est que vous êtes un type tout à fait enthousiaste. Ça nous intéresse, mais vraiment, parce que justement, on n'est pas du tout là pour céder aux sirènes du défaitisme. On sait bien que les choses sont très très compliquées, mais on a quand même besoin de voir toutes ces petites pousses comme cette herbe-là qui est tendre et qui va peut-être donner une fleur magnifique que l'on ne sait pas au milieu de ce champ. Vous croyez en qui? Enfin, en l'homme, a priori.
Pas que.
Pas que. Alors voilà. Racontez-nous.
L'homme, il s'est quand même répandu en faisant beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais. Je crois à l'ensemble du vivant.
Première espèce invasive, c'est maintenant, c'est nous.
Voilà. Donc je crois surtout au vivant. Et je crois qu'il y a quand même une nouvelle conscience qui émerge. Et c'est une grande chance parce que la civilisation industrielle, c'était une pire folie, mais surtout qui nous rendait malheureux. Bouffer de l'essence à longueur de journée, c'est pas intéressant. On peut faire beaucoup mieux. Et les véritables valeurs, c'est pas là-dedans qu'on va les trouver. Alors cherchons du côté de ce qui a une expérience considérable, de ce qui est magnifique, qui se renouvelle continuellement, sans jamais appauvrir le système, mais en ne faisant que l'enrichir. Et c'est là que va toutes mes émotions et mon désir de m'intégrer à quelque chose. Et à partir de ce type de réflexion, je construis des propositions d'autres manières de fonctionner dans une habitation, dans une agglomération, dans une ville. Et j'essaye de montrer à quel point cette autre manière de faire pourrait être une véritable richesse.
Nous allons poursuivre ce voyage donc avec Luc Suiten, donc dans cette saline d'Arquessenant. Donc restez avec nous. Un peu de musique choisie par Muriel Pérez.
Oui.
CO2 mon amour sur France Inter.
Take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time. Oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard.
Agréable, ces Anglais, Rex Orange County sur France Inter. Vous êtes bien dans ce haut de mon amour avec Luc Suiten. Nous sommes à Arquessenant, donc ce lieu tout à fait incroyable. Vraiment, je vous invite à le visiter, à y aller dans ce département du Doubs avec le Jura qui surveille juste au-dessus. Donc, Luc Suiten qui avait accroché son exposition, les panoramas de 2100. Il y avait une très belle Raymanta au-dessus de nous en bois qu'il avait imaginé aussi. On rentre et là, on regarde donc ces originaux.
Luc, on voit vos originaux, et nous sommes avec vos cités végétales qui a rythmé en fait une grande partie de votre œuvre.
Je pars de cette idée que chaque environnement particulier donne naissance à un type d'architecture, d'urbanisme, une organisation spatiale. Chaque terroir induit obligatoirement une réponse qui est spécifique. Elle correspond au sol, au sous-sol, à la culture,
au climat,
au
minerai,
à la faune, à la flore. et c'est la subtilité de la réponse spécifique qui fait l'intérêt d'un lieu et qui donne son identité. Si nous n'avons pas ça, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qu'une uniformité, une banalité. Donc j'essaie de travailler dans des environnements complètement différents parce que c'est ça qui va porter des propositions imaginaires qui utilisent chaque fois le vivant en tant que matériau de construction.
Mais à chaque fois quand même, il y a toujours évidemment cet arbre. Lorsque l'on parle de végétalisation aujourd'hui des villes, ce qui est en train de se faire doucement, ça c'est des idées que vous avez eues depuis combien d'années quoi.
Ah oui, ça ce sont les travaux, les premiers travaux datent d'il y a 40 ans.
C'est ça.
Et ça part de cette idée que les structures qui ont poussé ont des formes et des beautés que je ne trouve pas dans ce que l'homme a fabriqué. Et je cherche à me rapprocher de cette planète vivante et de ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des êtres biologiques. Je pense que l'endroit le plus adéquat pour notre épanouissement, notre vie, c'est quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes. Donc qui ressemblerait au fonctionnement d'un massif corallien ou d'une forêt primaire, quelque chose comme ça.
S'inspirer de la nature pour inventer, ça aussi vous l'avez fait.
La nature, c'est 3 milliards et demi de recherche et de développement. Et tout ce qui était pas rentable n'a pas été retenu. Ce qui est formidable, c'est qu'à partir de choses excessivement simplistes, seulement quelques parasites, quelques microbes, on est arrivé à un monde aussi complexe que celui que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une évolution qui va vers un progrès constant.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui mâche ses peaux. À l'amour ami que j'ai vécu ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça.
Alors là, donc, et ici nous sommes...
Autre pièce.
Dans l'évolution d'un quartier de 1800 à 2200, on voit comment progressivement cette même vue, cette même cité va progressivement arriver vers le présent pour partir vers le futur. C'est une démarche qui pour moi est très très importante parce qu'elle me permet de situer mon travail dans le temps, de poser cette question. D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, et permettre aux gens, quand ils regardent les tableaux, de se sentir concernés par la question que cela pose. Parce que quand on regarde deux tableaux comme ça, on dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment ce soit comme ça, et puis ce soit devenu comme ceci, et on commence à réfléchir, à rentrer dans les questions qui se trouvent en fait entre deux tableaux.
Alors là, on est face à une vue de Bruxelles, donc en 2000, en 2100, et qu'est-ce que l'on voit qui est en train de voler? C'est quoi? C'est la mécanique? C'est un oiseau? Qu'est-ce que c'est?
Les engins volants que j'imagine vont voler sans le kérosène et tout ce que l'on utilise actuellement, qui est tellement polluant, qui auront disparu dans moins de 100 ans. Alors comment est-ce qu'on va voler? Il faudra reprendre le problème à la source. C'est-à-dire que l'engin volant le plus performant que nous connaissons, c'est l'oiseau. Et il a une faculté de se maintenir en l'air en faisant très peu de mouvements, etc. Et si, en plus, nous travaillons avec des structures qui sont des sortes de dirigeables gonflés à l'hélium, dont l'extrado est couvert de capteurs solaires, qui alimentent des moteurs, qui font le battement des ailes, on peut voler simplement avec l'énergie solaire qui arrive sur l'engin volant. Et on vole pas aussi vite qu'avec nos Boeing. Malgré nos Boeing, on ne vole pas. On est transporté de l'autre côté, mais sans plus aucune émotion, sans rien ressentir.
Comment l'appelez-vous?
Un ornithoplane à ailes battantes.
Je suis bête. Un ornithoplane à ailes battantes, bien sûr.
Ici, c'est un grand pitonnier à Bruxelles qui traverse toute la ville, le boulevard Anspach, qui a été transformé en une sorte de boulevard urbain, enfin d'autoroute urbaine, qui maintenant est devenu un pitonnier, dont je proposais avec les riverains de ces quartiers, parce que c'est un travail qui était fait à la demande du comité de quartier, de transformer certaines places en des identités qui permettent de se repérer dans la ville et surtout de la rendre plus conviviale. Donc nous avons au centre même de Bruxelles, la place de la Bourse, des endroits où les gens peuvent se retrouver. Il y a des bancs et des tables faits de matériaux très robustes avec la lumière qui sort par les tables et qui permet de s'attabler à des endroits sans devoir consommer. Parce que c'est aussi un paradoxe de notre société, on doit absolument consommer si on veut donner rendez-vous à quelqu'un en pleine ville. Bien là non, ce sera tout à fait ouvert à tous et à tous.
Vous savez que vous êtes un dangereux révolutionnaire, vous êtes bien conscient quand même.
Ah, certainement, c'est
sinon vous ne seriez pas
là.
Votre œuvre, c'est toujours été d'essayer de sortir, on va dire, ce que nous sommes de l'anonymat dans lequel on souhaite nous mettre et de donner donc des repères à des gens, que ce soit des repères physiques comme des repères par rapport à ce qu'ils sont.
Absolument. C'est à ce moment-là qu'on commence à se sentir exister.
Il y aurait presque un peu du Hopper, là.
J'aime bien travailler sur la lumière, parce que oui. C'est ça qui fait chanter le feuillage, les herbes, des tas de choses. Et là, c'est la tour des finances, une des plus hautes tours de Bruxelles, 140 mètres de hauteur. Il y avait une tour d'ascenseur en béton, armée seulement du béton. J'ai proposé de la végétaliser pour qu'elle soit occupée par une faune, une flore, etc., qui la rende vivante. Alors, en 58, on a fait l'atomium parce qu'on pensait que l'avenir de l'homme, c'était l'atome, qu'avec nos centrales nucléaires de tous les côtés, on allait trouver le bonheur.
Il y en a qui le pensent toujours.
Il y en a qui le pensent toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a un avenir du côté du végétal, que tout ce qui vit, tout ce qui pousse, tout ce qui respire doit nous servir d'exemple et peut nous amener, en tout cas, à nous sentir mieux.
On ressort de cette exposition, on va reprendre un petit peu l'air dans l'hémicycle, toujours d'Arc et Senant. Alors, Luc Scruten, nous sommes ici, donc dans cette ancienne industrie donc du XVIIIe siècle qui a été créé, inventé par Nicolas Ledoux. Ça a commencé donc en 1774. Qu'aimeriez-vous dire à ce Nicolas? Vous aimeriez échanger sur quel thème avec Ledoux?
C'est vrai que c'était un visionnaire qui avait un sens assez exceptionnel des volumes, d'une organisation spatiale qui apporte une grande dignité aux gens qui habitent. Il y a une noblesse dans son travail que je trouve absolument remarquable, mais aussi une richesse, une invention. Il a inventé des bâtiments qu'on ne savait pas construire à l'époque où il les a faits. Peut-être que c'est ça qui m'a incité à faire de même, à proposer des habitations dont je ne peux absolument pas dire comment on pourrait les mettre en place aujourd'hui.
Oui.
Mais en ayant quand même une certaine conscience qu'il y a des voies qui nous permettent d'imaginer qu'on pourrait trouver des solutions pour arriver à aller dans ce sens-là, simplement. Pour moi, c'est suffisant simplement de pouvoir donner envie de prendre une certaine direction.
Je ne regarde pas les plans, cher ami, je regarde le chantier. Et je ne vois pas les boxes devant le bloc Richelieu.
Les garages sont souterrains, en effet, dessus il y a de l'herbe.
J'aime beaucoup l'herbe, monsieur Marais. Mais vous savez très bien qu'on peut gagner une trentaine de boxes en surface sans que pour cela vos immeubles s'écroulent.
Ça ne me paraît pas possible.
Moi, je vous dis que les gens qui regardent par la fenêtre verront des jardins et non pas les parkings.
Je suis désolé. Si vous voulez relire votre contrat, vous verrez qu'il existe...
Mais mon contrat, je vais vous le balancer vers la figure. Moi, tant que je serai là, si je vois une cage là-bas sur la pousse, je la fous par terre.
Je peux rester optimiste et joyeux, c'est parce que j'habite dans le monde que je crée et j'y vis, mais je veux pas y rester seul. C'est pour ça que j'aime bien faire des expositions pour ouvrir une porte très large, inviter les gens à dire regardez, ce sont des choses qui pourraient peut-être être possibles. Si tout le monde le veut, si nous le voulons, on pourra aller dans ce sens-là, vers une autre réalité. Une réalité qui va vers l'harmonie, les liens, vers ce qui fait sens, vers ce qui nous redonne une véritable place sur notre planète.
Pour terminer, une petite note de nature que vous aimez, là, que vous allez nous offrir avant de partir. Une image de nature qui vous plaît.
Et pour moi, ce sont les habitats arbres. Donc, ces habitations qui sont faites à l'intérieur d'un arbre, dans la structure de branches et de troncs, on va créer la partie portante qui est refermée par une forme de biotextile. Puis rentrer, monter dans un arbre autour du tronc, c'est un vieux rêve d'enfant. Mais en même temps, c'est fondamental à l'être humain, habiter les arbres, c'est aussi être un peu à mi-chemin entre la terre et le ciel. Et d'être en phase avec tous les éléments, les oiseaux aussi bien que ce qui se passe sur le sol. Donc là, c'est ce lien très profond avec le vivant. Et ça, c'est un thème récurrent dans tout mon travail. Architecture nature, pour moi, c'est ça, c'est habitable.
L'habitable.
Nous avons besoin d'hommes qui manient donc les utopies, le côté futuriste, et donc il a créé l'archiborescence, hein, qui rime avec résilience. Donc Lux Creighton, à la Saline Royale d'Arc-et-Senan, l'exposition Les Panoramas de 2100, c'est jusqu'au 21 octobre. Donc allez-y, vous avez tout l'été, cher Frédéric Denré, vous connaissez les lieux maintenant aussi bien que moi, depuis déjà un certain temps. C'est vrai que ça va durer tellement longtemps cette fabrique, parce que donc on se chauffait au bois, avec le bois de la forêt de Chaux juste à côté, puis après le bois, il y a eu
le charbon est arrivé, du coup il n'y avait plus aucune raison de continuer à exploiter Arc-et-Senan. C'est fascinant, Arc-et-Senan, c'est une utopie architecturale, c'est la quintessence même de la civilisation des Lumières. Pourquoi? Parce que le sel a toujours été un facteur de civilisation. Avant Arc-et-Senan, Saint-Louis avait bâti Aigues-Mortes pour le sel, et une des premières civilisations européennes s'appelle la civilisation de Hallstatt, qui a prospéré entre le 14e et le 8e siècle avant Jésus-Christ sur l'exploitation de mines de sel, et parce qu'il fallait exploiter ce sel, et bien on a fait des routes, on a fait des entrepôts, on a créer une civilisation, une hiérarchie sociale. Partout dans le monde, le sel a été un vecteur
de civilisation. Parce que quand même, donc à cette époque-là aussi, c'est-à-dire qui détenait le sel détenait aussi le pouvoir. Aujourd'hui, ça a été l'énergie, maintenant c'est les données, mais je veux dire qu'à cette époque-là, qui détenait le sel, donc pour conserver les aliments, détenait le pouvoir.
Puis il faut quand même savoir qu'une des principales ressources fiscales de l'Ancien Régime, c'était l'impôt sur le sel.
C'était un peu la gabelle.
C'était
un peu la gabelle, voilà. Tenez, un message, 01 56 40 40 35.
Oui, bonjour, Régis du Morvan. J'appelais pour annoncer une réunion publique qui va se tenir à Brassy le 18 mai à 18h pour informer la population sur le contrat régional forêt-bois qui, pour nous, a tendance à favoriser l'industrialisation de la forêt du Morvan qui est déjà quand même très, très abîmé par la sylviculture intensive. Merci, au revoir.
On va leur faire un petit lien, parce qu'en fait, le Morvan n'est pas si loin que cela, donc de la forêt de Chaux. Bonjour, chère Sandra Colombo.
Bonjour.
Alors, avec vous, on va essayer de rhabiller notre bonne conscience écolo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous regarde, là?
Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous me regardez. J'ai bien vu, vous n'arrêtez pas de me regarder. Et vous aussi, Frédéric, sous toutes les coutures. Il va falloir arrêter, messieurs.
Parce que déjà,
premièrement, c'est pas très radiophonique. Oui. Et ensuite, deuxièmement, ça me donne envie de me cacher.
Bon, alors, mais pourquoi?
Parce que je porte un joli petit t-shirt collection printemps-été 2018.
Très joli, très bien.
Oui, mais d'une grande enseigne de fast fashion.
Ah oui, d'accord. Comme quoi ça arrive au meilleur d'être fashion victim.
Voilà,
c'est ça.
Voilà. Et je dois vous dire, je suis, mais alors absolument pas fière de moi. Parce que si je sais ce qu'il coûte, hein, moins de 5 euros, je sais aussi dorénavant ce qu'il vaut.
Donc vous venez de découvrir l'envers de ce monde. C'est bien, il est temps.
Et du coup, c'est moi qui suis toute retournée. Parce que même si jusqu'ici j'avais mis mon mouchoir Made in France, hein, sur ma conscience, force est de constater que vous déteignez sur moi et que ma bonne conscience écolo s'est réveillée comme un rosier au printemps.
C'est très beau. Donc on en est ravis. C'est très beau les rosiers.
Voilà. Bon, alors du coup, moi, je suis moyen contente, hein, parce que maintenant, je regarde mon armoire d'un sale œil.
Pourquoi elle déborde? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, voilà, ça va. Je le sais que je suis d'une banalité affligeante. Mais si, je suis comme la moyenne des Français. J'achète 30 kilos de fringues par an. J'en jette 12. Et 70% de ce qui est dans mon armoire reste sur des cintres. Et tous les matins, je n'ai rien à me mettre.
Bah, c'est peut-être vrai.
Non, arrêtez, je ne peux même pas me cacher derrière cette excuse. Parce que vous savez que depuis 2014, on a dépassé le seuil des 100 milliards de pièces de vêtements produites chaque année. 100 milliards, c'est quand même beaucoup. Hein, on a le choix. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que la branche textile compte sur une augmentation de 60% d'ici 2030.
Mais c'est la planète qui va être contente, elle va adorer ça.
Mais elle adore déjà la planète. Mais oui, parce qu'en Chine, 70% des cours d'eau sont déjà pollués par les rejets toxiques dus aux industries textiles. Idem en Inde, où la région de Kanpur, hein, qui est devenue la capitale du cuir pas cher, eh bien à Kanpur, chaque jour, 50 millions de litres d'eau usée toxique sont rejetés par les tanneries locales. Des eaux polluées notamment par le chrome 6.
Ah oui.
Donc, oui, on adore. Ça vous donnera l'occasion de revoir Irine Brokovich. J'adore ce film. Voilà, donc se faire un petit look sympa, pas cher, eh ben, ça implique d'exploiter non seulement la nature, mais aussi un humain, souvent très jeune et féminin, dans 85% des cas.
Et donc on le rappelle, toujours au moins de 5 euros. Hein, tout
oui,
ça.
tout ça moins de 5 euros. Et alors figurez-vous que derrière ce tout petit prix, eh bien, il y a forcément des variables d'ajustement. Il y en a deux principales. Un, les gens qui les fabriquent. Et deux, la planète.
Il n'y a pas que pour le textile, hein, c'est pour beaucoup de choses.
C'est pour beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que la planète, elle prend bien cher pour qu'on s'habille pas cher. Bon, alors tout commence par le coton. Hein, c'est un bazar sans nom, le coton.
Ah si, ça s'appelle quand même le coton. Et puis, alors, s'il occupe que 2,4% de toutes les terres cultivées, il utilise
12% des pesticides et 25% des insecticides employés dans le monde.
Oui.
Et oui. Et puis ça,
et puis ça boit. Ça boit.
Mais
ça.
Oui, ça a soif le coton. Ça boit 6 fois plus d'eau que la laitue, par exemple. Et 60% de plus que le blé. Et pourtant, la culture du coton, elle est subventionnée jusque dans le désert de l'Arizona. Mmh. Et de l'eau dans le désert, si vous vous souvenez bien, il n'y en a pas tellement, tellement.
Non,
voilà.
Pas
bon, ben, par exemple, ce petit t-shirt que je porte, c'est 5000 litres d'eau, soit ma consommation d'eau d'un mois et demi.
C'est la moitié d'un kilo de viande, ou qui doit en faire 10 000 à peu près.
Voilà.
De viande rouge.
Ben oui, mais je ne mange plus de viande. Donc j'ai finalement le droit d'acheter un petit t-shirt. Alors, je vous passe les centaines d'opérations nécessaires et les milliers de kilomètres parcourus avant que le produit fini n'arrive dans les magasins. Et évidemment, les tonnes de cintres, les sacs pour emballer, les tickets de caisse, j'en passe, des dégâts collatéraux. Bref, toutes ces richesses dépensées pour porter ce fabuleux t-shirt, au mieux entre 7 et 10 fois. Bon, ensuite, histoire de se rhabiller la conscience, bim, à la benne.
Oui, alors d'accord, mais on peut être le recycler quand même, cette
affaire. Oui, on le recycle un petit peu, mais bon, il y a beaucoup trop de nos vêtements qui s'égaillent dans les décharges mondiales. Hein. Et pas de bol, les vêtements ne sont pas biodégradables. Ils mettront environ 200 ans à se dégrader, en rejetant pendant ce temps-là des gaz toxiques dans l'atmosphère.
Bon, alors ça, c'est vrai que c'est la première partie. Excuse-nous, c'est un petit peu plombant quand même.
Oui,
c'est un petit peu plombant. On va se dire, qu'est-ce que c'est que cette morale, etc. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, c'est simple.
On fait quoi?
C'est très simple, c'est hyper facile. Il suffit d'acheter plus ou beaucoup moins de fast fashion.
Elle rêve, là.
Non, elle rêve pas, elle le fait elle-même, regardez. D'accord. Alors, par exemple, on peut acheter moins, mais mieux, parce qu'il y a pas mal de marques de vêtements équitables, respectueux des humains et de la planète. Par exemple, 1083, qui fait des jeans made in France et même des baskets. Ou bien People Tree, qui fait des sublimes robes. Ou le site Modétique, qui regroupe plusieurs marques. Mmh. Et vous pouvez aussi acheter plus, mais vieux. Par exemple, en friperie, comme Emmaüs.
Oui.
Mais oui, Emmaüs, qui devient dorénavant 2.0, et vous pouvez acheter en ligne grâce à La Belle Emmaüs.
Moi, je me souviens très bien une petite anecdote, donc ça fait un peu ancien combattant, José Arthur, qui disait « Je ne donne jamais mes vêtements, mes fringues à l'abbé Pierre, il ne l'aimait jamais. » Voilà, c'est tout. Donc...
Il était beaucoup plus drôle que moi, José Arthur.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Et voilà, vous pouvez aussi acheter, si vous êtes dans le sud-est, à La Fibre Solidaire. C'est un magasin que j'ai découvert à Aix-en-Provence et qui rayonne dans toute la région de Aix, Marseille et tout ça, ou en dépôt-vente, bien sûr. Et puis aussi, au lieu d'acheter tout le temps, bah, vous pouvez également refaire des trucs, remoumouter vos fringues.
J'aime
ça,
bien.
C'est super.
Remoumouter vos fringues.
Mais oui, remoumouter vos fringues, comme ça vous refaites vos t-shirts et vous referez aussi un peu le monde.
Alors, il y a un projet Détox de Greenpeace,
oui.
En un mot.
Alors, Détox Greenpeace, en fait, ils ont lancé en 2011 un défi détox à toutes les grandes entreprises du textile. Ils visent le zéro déchet en 2020. Et ça, c'est bien, ça redonne un peu d'espoir. Vous pouvez aller voir sur le site de Greenpeace.
Pinatex, qui fabrique du cuir à partir de feuilles d'ananas,
ouais.
C'est une alternative. Hein, déjà,
c'est une alternative végétale pour le cuir et voilà, ça marche extrêmement bien, c'est très joli.
Eh bien écoutez, un grand merci Sandra Colombo.
Je vous en prie.
Toutes les informations, vous les avez sur le site de CO2 Mon Amour, bien sûr. Merci à Camille Blanès, je n'oublierai pas Marion Philippe qui nous a donné un bon coup de main aussi sur Arc et Sonnant. Merci cher Marion Philippe. Alice Michaud, Xavier Pestugia qui a réalisé formidablement cette émission. Jean-Philippe Jeanne d'ailleurs aussi a mixé le reportage d'Arc et Sonnant. Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Merci cher Frédéric Danhé, vous reviendrez, vous verrez, il y aura plus de temps. 01 56 40 40 35. Le podcast, abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour. Et la rediffusion entre 5h et 6h du matin. Et demain, 19h54, ce sera, me semble-t-il, la Tulu, mon petit loup. Je vous souhaite quoi? Eh ben, un bon week-end. Allez, tranquille, tout va bien.